Alors, quant à moi, j'avais aussi envie de terminer par une note un petit peu plus légère, puisque je me rappelais ce matin qu'il me semblait que dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, on pouvait peut-être trouver des choses intéressantes sur les rapports entre les juristes et la réalité. La guerre de Troie n'aura pas lieu, vous vous en souviendrez pour l'avoir certainement lu à l'école, c'est par ces termes que commence la pièce de théâtre éponyme de Jean Giraudoux qu'il a écrit en 1935. Et d'ailleurs, à voir certains membres du public, j'imagine que ces souvenirs ne sont peut-être pas si anciens. Et je vous rappellerai que donc dans cette histoire qu'il a écrite, Jean Giraudoux, Hector est en train donc de se demander s'il faut ou non entrer en guerre contre les Grecs. Et il va être entouré par de nombreux conseillers, et souvent des conseillers qui vont plutôt l'encourager à partir en guerre. Et il va notamment être présenté par Démocos à un juriste du nom de Busiris. Et ce juriste va lui proposer un projet argumentatif, disons, en disant « Vous savez, moi je peux vous expliquer en tout cas que les Grecs ont violé de nombreuses règles de droit international et si vous vous prévalez de ces violations, vous allez pouvoir ainsi asseoir votre légitimité à rentrer en guerre. » Ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Je vais juste vous lire ce que dit Busiris donc à Hector. « Mon avis... Prince, après constat de visu et enquête subséquente, est que les Grecs se sont rendus vis-à-vis de Troie coupables de 3 manquements aux règles internationales. Leur permettre de débarquer serait vous retirer cette qualité d'offensé qui vous vaudra dans le conflit la sympathie universelle. » Mais Hector ne va pas vraiment suivre le conseil de ce juriste Busiris et il va plutôt lui proposer autre chose, après que Busiris lui ait bien expliqué tout son projet. Il va dire « Eh bien, tu vas donc, et sur le champ, me trouver une thèse qui permette à notre Sénat de dire qu'il n'y a pas eu manquement de la part de nos visiteurs, et à nous de les recevoir en hôte. » Alors, évidemment, Busiris, le juriste, est un petit peu surpris. Ça, c'est évidemment moi qui l'interprète parce que ce n'est pas marqué entre parenthèses en dessous de son intervention. Mais Busiris lui dit « Mais c'est contre les faits, Hector !» Et là, Hector lui dit « Mais mon cher Busiris, nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. » Le droit serait donc, d'une certaine manière, la plus puissante des écoles de l'imagination. Et par ces termes, j'ai l'impression que Giraudoux veut nous dire à quel point cette réalité est toujours interprétée par les juristes, combien la réalité est, d'une certaine manière, imaginée par eux, une réalité qui serait aussi fantasmée, rêvée, inventée en quelque sorte. Alors si on prend cette citation au sérieux, il me semble qu'on peut appréhender le discours juridique comme un discours de l'imagination, comme une histoire qu'on raconte, comme une histoire qu'on narre, pour reprendre un verbe qui a beaucoup été utilisé aujourd'hui. Et la question qu'on pourrait se poser, et qui me paraît pouvoir être adressée aux 3 thèmes qui ont été abordés cet après-midi, est la suivante. Est-ce que cette histoire qu'on raconte, à l'occasion des différentes expériences qui ont été abordé ici, est véritablement raconté de manière différente lorsqu'on se situe à l'intérieur d'un procès ou à l'intérieur des cadres plus officiels. Alors, je voudrais simplement proposer 3 pistes de réflexion ou 3 petites questions que j'adresse à la fois aux intervenants et à la salle. La première est la suivante. Si Giraudoux nous explique donc que la réalité est à ce point imaginée par les juristes, est-ce que cette réalité est moins imaginée lorsque c'est le peuple qui la raconte? Ou est-ce qu'elle est plus imaginée ou est-ce qu'elle est simplement imaginée différemment? Est-ce qu'on s'approche de la réalité lorsque c'est le peuple qui raconte l'histoire, en d'autres termes? Ça, c'est la première question que j'avais envie de vous poser. Et de savoir si finalement le peuple est plus ou moins informé par ses fantasmes peut-être, par certaines émotions, par les souffrances qu'il va raconter ou par la joie ou la haine qu'il va pouvoir parfois formuler. quand on pense au cas justement de Marie-Antoinette et qu'on voit à quel point elle a été présentée comme une reine malfaisante, à laquelle on a prêté des mœurs perverses, et qui rappelait d'une certaine manière aussi le procès des sorcières dont nous parlait hier Thomas Berne, ces femmes qui sont aussi présentées comme des femmes malfaisantes, et quoi qu'elles fassent, elles seront toujours présentées comme telles, hein, c'est ce terme de catch-22 que Guy Archer évoquait hier. Et on se rend compte à quel point, finalement, il y a là aussi toute une série d'émotions qui passent dans ce discours et qui sont servies à l'intérieur d'un discours juridique qui est utilisé comme moyen de légitimation du pouvoir. Ça, c'était ma première interrogation. Ma deuxième interrogation, c'est, ou plutôt peut-être une réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est à quel point, quand même, la forme juridique reste fascinante d'une certaine manière. Comme d'une certaine manière, le procès reste aussi une réalité qui est elle-même fantasmée. On dirait qu'il reste cette occasion privilégiée de raconter une histoire parce qu'il est perçu comme un lieu solennel, comme un moment solennel qui va mettre en scène la réalité et donc par là même porter cette réalité. Il va porter cette réalité à un statut particulier, lui donner les parures particulières, le couronner d'une certaine manière et en même temps en figeant cette réalité. Et donc, il n'est pas étonnant que la figure du procès ait été utilisée pour véhiculer une histoire qu'on voulait raconter, une histoire qui n'était peut-être pas possible de raconter devant les tribunaux ordinaires, ou en tout cas, une histoire qui n'était pas possible de raconter de la manière dont on voulait la raconter. Et c'est sans doute à ça que renvoie l'exposé de Madame Breton-Le Goff sur cette volonté, d'une certaine manière, d'imiter le procès ou d'imiter l'appareil judiciaire, d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et vous avez bien mis l'accent sur le fait qu'on veut à la fois mettre en place les mêmes règles du droit international et une forme de composition du tribunal et de permettre aussi aux accusés d'être défendus. Tout ce cérémonial, ce culte, semble visiblement encore tout à fait fascinant puisque même quand on essaye de raconter une histoire ailleurs, on va quand même singer cet appareil judiciaire. Alors évidemment, dans le cas des expériences des comités de vérité, c'est assez différent, puisque là, au contraire, on va plutôt essayer de quitter l'espace judiciaire, ou en tout cas, on va essayer d'occuper un espace qui était laissé vacant. Et sans doute qu'on a déserté cet espace judiciaire parce que cet espace apparaissait comme une forme peut-être trop rigide, trop officielle, trop autoritaire, où on ne pouvait pas raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter. Et en même temps, si le procès en tant que tel est délaissé, le droit ne l'est pas. Les juristes sont associés de manière souvent assez étroite à ces commissions de vérité et de réconciliation. Le droit est quand même mobilisé, peut-être le droit international plus que le droit national. Et donc, c'est vrai qu'on s'éloigne du droit, mais on s'en éloigne pas trop tout de même. Hein. On s'adosse un petit peu plutôt au droit. Ce qui me semble suggérer quelque chose d'important, que je formule plutôt à titre d'hypothèse, c'est que finalement le discours juridique, ou en tout cas le langage du droit, reste un discours extrêmement performant pour traduire une réalité. Il reste certainement un langage de pouvoir, mais qui peut aussi, dans une certaine mesure, devenir le langage du contre-pouvoir, par lequel les vérités officielles ou les vérités judiciaires vont être remises en jeu, vont être complétées, nuancées ou contestées. Mais là, il y avait, il me semble, en tout cas, une interaction forte quand même entre ce phénomène du procès et ce qu'on essaye de faire en dehors du procès et qui finalement vient toujours se mettre tout contre le droit. Troisième et dernière question, et ça c'est vraiment juste une petite question que je vous pose pour terminer. C'est vrai que tout au long de ce colloque, on s'est rendu compte à quel point la vérité judiciaire ou la vérité telle qu'elle sort des tribunaux sert les intérêts d'un pouvoir en place ou du pouvoir de l'État à asseoir sa force, à savoir son autorité, sa légitimité. Et donc la question que j'avais envie de vous poser est la suivante. Eh bien alors, peut-être que la vérité populaire, de la même manière, sert les intérêts du peuple ou à asseoir le pouvoir du peuple ou en tout cas de ceux et de celles qui agissent au nom du peuple, ce qui m'amène évidemment à questionner cette notion un petit peu comme l'a fait il y a quelques minutes Julien Pierret, à savoir mais qui est ce peuple qui s'exprime? Est-ce que ce sont les révolutionnaires? Est-ce que ce sont certaines ONG nord-américaines particulièrement puissantes? Ou qui sais-je encore? Voilà en tout cas une question qui me paraît peut-être ouvrir le débat sur ces questions.